Comme dans beaucoup de territoires à forte fréquentation touristique à l'Île-Dieu, l'habitat est en tension et c'est souvent un casse-tête pour les personnes en recherche de logement ou voulant faire construire. Différents projets et actions sont en cours et à venir par la commune de l'Île-Dieu afin de renforcer sa politique de l'habitat. Bruno Nourry, maire de l'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Maillard, deuxième adjoint délégué à la vie économique, bonjour.
Bonjour.
Elsa Marché, chargée de mission habitat, bonjour.
Bonjour.
Durant le conseil municipal du 28 février dernier, la majorité du conseil a approuvé la majoration de 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Quand sera-t-elle mise en place, Bruno Nourry ?
Il faut peut-être rappeler un contexte. C'est cette majoration de taxe d'habitation pour les résidences secondaires était permise dans un certain nombre d'aires urbaines de plus de 50 000 habitants qui étaient sous tension. C'est notamment le cas, par exemple, des Sables-d'Olonne. Et puis, la représentation nationale, donc députés et sénateurs, ont voté une disposition dans la dernière loi de finances qui va ouvrir à un certain nombre de communes ce dispositif, notamment, bon, globalement, les communes côtières et certaines communes de montagne. Ça concerne environ 5000 communes en France. Donc, on avait jusqu'au 28 février pour délibérer sur le montant de cette majoration. Et en parallèle, le gouvernement devait sortir un décret pour dire quelles communes étaient concernées. Bon, il se trouve que le gouvernement a un peu botté en touche en disant « Bon, on verra ça l'année prochaine, on n'a pas le temps de savoir quelles communes, etc. » parce qu'il y avait des impacts notamment sur les locaux vacants, c'est-à-dire que si les communes concernées par le décret, aujourd'hui, quand elles ont une taxe d'habitation sur des logements vacants, demain ce sera une taxe sur les locaux vacants, mais qui ne sera pas dévolue à la commune, mais qui sera revenue à l'État. Donc si une commune se retrouvait dans le décret et ne délibérait pas sur une hausse de cette taxe d'habitation, ben elle se retrouvait amputée ceux de la taxe d'habitation sur les locaux vacants. Je trouvais ça un peu fallacieux comme prétexte. Alors après, pourquoi on a décidé de cette taxation ? Plusieurs dispositions, les villes qui l'ont déjà mis en place, certaines disent ça va inciter les résidents secondaires à devenir des habitants permanents. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel effet. C'est peut-être une façon déguisée de dire, bah voilà, on va faire un peu plus de recettes sur le budget municipal. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est-à-dire que la disposition sur la loi des finances, c'est bien pour avoir des actions en faveur du logement. Donc, nous, en fait, cette taxation sera dévolue entièrement, je dis bien entièrement, à une politique logement. Je peux décliner de quoi il s'agit. Mais
politique logement, construction de logements ?
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la commune de l'Île-Dieu n'achetait des terrains par préemption ou parfois de gré à gré pour constituer des réserves foncières. Puis quand on a la surface suffisante, on fait un permis d'aménager pour faire un lotissement avec une mise à disposition de certains terrains aux bailleurs sociaux, à savoir Vendée Habitat, pour faire du logement locatif et puis le reste en accession à la propriété. Mais la commune de l'Île-Dieu, jusqu'à maintenant, n'avait pas de politique en faveur de construire elle-même des logements locatifs. De toute façon, elle n'aurait pas les moyens, on se couperait vite les ailes sur d'autres projets et on ne sauverait pas la face du monde parce qu'on n'aurait qu'une action très limitée en la matière. Donc cette majoration de taxes sur les résidences secondaires permet en fait à la commune de se constituer un parc de logements locatifs. Comme je disais, jusqu'à maintenant, on n'en avait pas ou très peu. On a quelques logements locatifs. Donc demain, ça va permettre, un, de construire, deux, d'acheter dans les bourgs anciens, par exemple, des maisons ou des maisons toutes faites pour les mettre en location à l'année. Hein, c'est bien ça l'objectif. Alors, je sais bien que mettre une taxe, une surtaxe, jamais populaire. Je ne voudrais pas pointer du doigt les résidents secondaires parce que ce n'est pas le propos non plus. Individuellement, chaque résident secondaire, j'ai envie de dire, n'est coupable de rien. Mais collectivement, ils sont responsables d'une situation de pression foncière qui fait qu'aujourd'hui, la population locale n'arrive plus à se loger. Donc voilà, on met à contribution en sachant que allez, ces 20 dernières années, on ne peut pas dire qu'on a augmenté de beaucoup les impôts locaux.
Voire aujourd'hui, ils sont de 25%, non ?
Oui, et puis c'est un taux inchangé depuis 7 ou 8 ans. Et puis à l'époque, on avait augmenté de genre 0,15%. Enfin, on ne peut pas dire qu'on a augmenté les impôts locaux. Et là, cette fois, on le fait pour mettre à contribution, pour permettre de loger des gens, les habitants, à l'année. Donc, c'est ça l'objectif. Ce n'est pas de mettre une population contre une autre, mais c'est de dire, OK, vous avez... Vous êtes propriétaire d'une maison de vacances à Lille-Dieu, on vous met un petit peu à contribution pour desserrer les taux fonciers et permettre de produire des logements locatifs à l'année. Et voilà, de faire en sorte qu'on respecte les équilibres de l'île et qu'on continue de bien vivre ensemble.
Cette taxe d'habitation, cette majoration, il y a des résidents de Lille-Dieu qui ont une maison secondaire, également à Lille-Dieu, elle s'appliquera ?
Oui, bien sûr, elle s'appliquera. Je veux dire, si on fait... si on tient compte de toutes les situations individuelles, ben dans ce cas-là, on ne fait rien. Et puis dans 20 ans, il n'y a plus d'habitants à Lille-Dieu. Donc oui, maintenant, ça s'applique effectivement aussi au logement locatif saisonnier. Donc on va dire la moyenne de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, aujourd'hui, c'est à peu près 900 euros. C'est en moyenne. Okay. Très grosse maison qui paye beaucoup plus, et celui qui a un studio à louer paye vraiment beaucoup moins, quoi. Donc s'il met à louer, il mettra à louer 2-3 jours de plus, et puis voilà. Mais c'est participer tous collectivement, donc y compris des habitants permanents qui ont d'autres bâtiments à vocation, qui ne sont pas à vocation de résidence principale, de contribuer aussi à faire que tout le monde puisse se loger à Lille-Dieu, c'est une affaire collective.
Par contre, vous ne savez pas quand sera mise en place cette majoration ?
Alors, la petite subtilité, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que le gouvernement a botté en touche en disant on va mettre en place pour l'année prochaine.
Mettre en place l'année prochaine, 2024, donc.
2024.
Donc, c'est sûr ou...
Oui,
ça va être abandonné.
Abandonné, ça voudrait dire qu'on vient dédire la loi. Donc là, ce serait quand même compliqué. Non, ils avaient des problèmes... technique. Encore une fois, moi, je ne les ai pas vraiment compris, on les a entendus, mais pas vraiment compris. Enfin, on les a entendus, non, puisqu'on a voté en sachant qu'on allait se faire retoquer. Mais voilà, nous, c'était afficher une volonté aussi, en sachant qu'encore une fois, techniquement, comment ça va se passer, c'est que nous, on va créer un budget annexe logement, où on aura ce budget annexe sera propriétaire d'un certain nombre de logements, va continuer d'en acquérir, d'en construire, pour devenir quelque part un peu bailleur social, c'est-à-dire pouvoir mettre des biens en location. Et encore une fois, l'intégralité des sommes sera dévolue à ce budget annexe.
Elsa Marché, chargée de mission Habitat. Vous continuez à demander à l'État d'être en zonage B1, c'est quoi ?
Alors, le zonage B1, c'est un zonage qui classe l'ensemble des communes de France selon leur niveau de tension. Ça va de la zone A, qui correspond aux communes d'Île-de-France, jusqu'à la zone C, qui sont les zones moins tendues à l'échelle nationale.
Île-de-France, c'est entendu, donc.
Voilà, Île-de-France, très tendue, et les communes qui sont en zone C sont moins tendues, sachant qu'il y a des sous-niveaux A1, B2, et Lille-Dieu, aujourd'hui, est en zonage B2. Et le zonage B2, ça l'empêche d'avoir accès à un certain nombre de dispositifs, notamment de défiscalisation.
Donc, la loi Pinel, par exemple, non ?
La loi Pinel, notamment. Donc, il y a... En fonction de son niveau dans le zonage, elle a le droit à différents dispositifs. Donc, ça peut permettre de. Sur la location, notamment, donc le zonage Pinel, si Lille-Dieu passait en zonage B1, elle aurait le droit au dispositif de défiscalisation de Pinel. Elle aurait le droit aussi à d'autres avantages de défiscalisation en
comme
matière
quoi
de régime locatif. Des plafonds de revenus qui seraient différents ou des plafonds de niveau de construction qui seraient différents sur d'autres avantages, mais aussi sur l'accession à la propriété. Donc notamment concernant le PTZ, qui est le prêt à taux zéro, qui est un prêt qui est accordé aux ménages qui primo-accédants, qui vont construire par exemple leur premier logement. Et là, en zone B2, les ménages ont un taux de PTZ qui correspond à 20% du montant de l'opération. En zone B1, il serait de 40%.
Et ça change vraiment la donne.
Ça change la donne. Et il est aussi ouvert à plus de ménages parce que les plafonds de revenus d'accès sont supérieurs.
Donc ce passage en zonage B1, c'est pour quand ? Bruno Nourret, ça vous fait sourire tout de même ?
Bah, ça me fait sourire parce qu'on bataille avec ça.
Depuis quand ?
De se faire reconnaître, ça fait plusieurs années déjà.
Mais pourquoi vous êtes retoqué ?
La dernière fois, on nous avait dit que nos loyers n'étaient pas plus élevés qu'ailleurs. On est allé chercher les bases de données, on a montré que si, c'était pareil, etc.
Est-ce en que fait, vous leur avez dit que la vie était tout de même plus chère à Lille-Dieu?
Oui,
est-ce que ça rentre en jeu?
Oui, oui. On a bien sûr usé de tous les arguments en disant que nous, on ne peut pas aller se loger ailleurs, que... il y a la pression immobilière, on a comparé les prix de vente au mètre carré à Lille-Dieu par rapport à ailleurs, le prix de la construction plus élevé, j'en passais des meilleurs, tu penses bien qu'on a tout étalé. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est quand même très frileux à augmenter ce nombre de communes en zone B1, parce que ça a des impacts financiers sur les comptes de l'État, donc voilà, et puis bah, plein de communes demandent. Alors, l'année dernière, elles avaient augmenté des communes de montagne. Alors, c'est sûr que ces communes de montagne, les niveaux de loyer étaient 3-4 fois plus élevés que Lille-Dieu. Maintenant, quand on a des secteurs comme Saint-Gilles ou Les Sables qui sont en B1, quand on compare les niveaux de loyer, on est à peu près équivalent, voire parfois un peu au-dessus. Et quand on compare les prix de vente, bah on est bien au-dessus. Donc ça se justifie. Maintenant, voilà, hein, Bercy, c'est le grand Manitou. Et puis, ils décident de pas de donner suite sans autre forme de procès. C'est toujours un peu comme ça. Alors, on se bat aussi avec les îles du Ponant pour avoir cette reconnaissance. Sur
les autres îles du Ponant, ils sont reconnus en zone B1 aussi ou pas?
Non, je crois qu'il y a la commune de Palais à Belle-Île qui y est. Pour qui, pourquoi, encore une fois, est-ce que ça a été régionalisé ou pas, c'est difficile de savoir. Et puis là, pareil, quand on nous rétorque, vos loyers ne sont pas plus élevés qu'ailleurs, ils ne citent pas leurs sources. Alors nous, on va chercher les bases de données de l'État, qui sont disponibles en ligne. On va regarder, alors ça demande du traitement informatique, mais quand on leur rétorque, nous, on cite nos sources, quoi. Voilà, mais bon, je pense qu'ils ont des demandes de partout, puis ils essayent de botter en touche à peu près systématiquement. Mais bon, le combat continue, on finira bien par avoir gain de cause. On va continuer de se battre pour ça, parce que c'est important pour maintenir notre population.
Les voisins à Noirmoutier, ils sont en B1 ou pas? Ou vous ne savez pas? Elsa dit oui, de la tête.
Noirmoutier en Lille, la commune de Noirmoutier en Lille. Mais pas...
Pas l'Herbaudière, par exemple.
Ça fait partie de Noirmoutier-en-Lille.
C'est bien
pas Barbâtre.
Donc pourquoi Noirmoutier-en-Lille et pas Lille-Dieu?
Ça s'est fait comme ça à un moment donné.
Parce que vous avez posé la question, forcément.
Ben oui, après, en Vendée, il doit y avoir Les Sables, Saint-Gilles, Noirmoutier-en-Lille, et je crois que c'est tout.
Donc vous n'avez pas une réponse ferme et définitive du pourquoi, du comment. Emmanuel Maillard.
La dernière fois que le préfet a répondu, il nous dit qu'on est à peu près similaire à ceux d'en face. Mais comme ceux d'en face sont en zone tendue, ont des vraies tensions de logement, c'est facile. Donc en fait, si on est pareil que quelqu'un qui est, je sais pas moi, à Saint-Gilles et autour, en zone... Alors après, si ces gens-là demandent aussi à être en zone tendue, puis qu'on leur dit, ben non, vous êtes comme Lille-Dieu autour de vous. Donc en fait, si Lille-Dieu n'est pas tendu, ben vous ne l'êtes pas. C'est un peu ça, quoi. Donc au final, tout le monde a des problèmes, mais on nous dit, ben non, comme les voisins n'ont pas de reconnaissance de leurs problèmes, ben, il n'y a pas de raison qu'on vous en reconnaisse, quoi. Vous voyez, le truc, c'est un peu... Donc c'est un peu exaspérant parce qu'au final...
C'est le choc et le smart avec eux.
Oui, et puis au final, on a l'impression qu'on ne nous entend pas. Peut-être qu'on nous écoute, mais on ne nous entend pas. Quand on voit le gouvernement qui parle, bon, alors en ce moment, il a un peu de soucis, mais globalement, on ne l'entend pas souvent parler de logement et de nos problèmes. Et le fait qu'on nous reconnaisse qu'on a des tensions sur notre logement, quelque part, c'est juste pouvoir avoir le droit de faire quelque chose, parce que tout à l'heure on a parlé de la surtaxe de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Globalement, les villes, toutes les centres-villes des grandes villes, y ont droit depuis des années et le font à Bordeaux, à Lyon, etc. Ils pratiquent ça, c'est-à-dire que c'est des outils qu'ils ont à leur disposition depuis des années, et nous, on n'y a pas droit. On est obligé de demander l'autorisation de pouvoir faire quelque chose, puis on nous dit non. Par exemple, on entend souvent parler, je change de sujet, mais du changement d'usage. Souvent, on entend à Saint-Malo, tiens, ils sont en train de mettre un règlement sur les meublés à l'intérieur où il faut avoir des meublés à l'année quand on a des meublés touristiques, etc. Tout ça, c'est des dispositions que les grandes villes ont à leur disposition et nous, on n'y a pas droit. C'est à nouveau, il faut écrire un courrier argumenté au préfet en disant, on a des soucis, est-ce qu'on aurait le droit, nous aussi, de mettre un règlement qui nous permettrait de gérer notre fréquentation touristique, notre accueil et nos logements touristiques? C'est-à-dire que alors les villes ont droit, donc on n'est pas en train de demander des trucs de dingue, on est juste en train de dire, on pourrait quand même avoir le droit d'avoir à notre disposition, nous aussi, des outils qui nous permettraient d'avoir des actions sur le logement. Et pour l'instant, on bataille pour... ouais, là, on peut pas faire... on va être toqué, etc. Alors, c'est un peu... C'est minant... Enfin, c'est un peu désespérant de se dire qu'on est obligé de demander pour pouvoir avoir droit à mettre en action un outil, quoi.
Bonnerie.
Par exemple, il y a quelque chose qui est un peu connexe à ces classements de zones tendues, que sont les obligations de la loi SRU, de logements locatifs sociaux dans des secteurs tendus, mais ce n'est pas la même définition. Par exemple, les Sables d'Olonne, ils sont soumis, Saint-Gilles aussi, c'est-à-dire que sur un programme privé, ils sont tenus d'imposer X% de logements sociaux, et les villes sont obligées d'en construire pour arriver à X% de logements sociaux dans l'habitat. Donc ça flèche aussi les actions des bailleurs sociaux de manière prioritaire sur ces endroits-là. Donc c'est un peu compliqué. Mais je vais citer un exemple pour comprendre la complexité. On était l'année dernière à l'île aux Moines, ces questions de logement, et eux, ils ont imposé sur... Alors, ils disent aux Moines, hein, donc... petite opération de logement, ils avaient imposé un ou deux logements locatifs sociaux. Dans les secteurs tendus. Mais en fait, non, c'est pas ça, c'est qu'ils ne sont pas en B1, ils sont en B2, comme nous, mais ils font partie de l'agglomération de Vannes. Donc, comme c'est une agglomération avec un PLU intercommunal, mais en fait, ils sont obligés, bon, collectivement, ils se sont faits, et ils avaient l'outil pour le permettre, de faire que sur l'ensemble de l'agglomération de Vannes, il y ait ce dispositif, donc y compris l'île aux Moines, donc est en B2, mais du coup se retrouve permis de faire ça parce qu'il y a Vannes qui est assez compliqué de s'y retrouver. Hein ?
On l'a bien compris.
Ouais.
Quels sont les programmes en cours afin de favoriser l'accession à la propriété des jeunes ménages et des familles ?
Il y a plusieurs choses. On parle de lotissement. Donc, il y en a deux qui sont en cours, un à la Chironnière et un à la Tonnelle. Donc, à la Chironnière, on a le permis d'aménager. Donc, voilà, c'est en cours. Il y a un peu de locatif avec le bailleur social, mais sinon, il doit y avoir 8 ou 9 lots en accession à la propriété qui vont être mis... à la vente après l'été. On a la Tonnelle qui a pris un peu plus de retard pour des raisons techniques, je ne rentre pas dans le détail, mais le permis d'aménager va pouvoir être déposé. Alors là, c'est une zone un peu plus grande, hein. On va plutôt avoir 24, 25 logements sur cette zone, donc toujours avec le même principe. Là, actuellement, on met en vente, en accession à la propriété, un certain nombre de parcelles qu'on a... un peu disséminé sur le territoire. Donc là, je vous renvoie au communiqué de presse de la mairie. Alors, il faut s'inscrire pour... voilà, il y aura un tirage au sort.
Notamment, il y a des terrains rue du Long des Volants, à la Corderie, à l'Armeria, au Sicardière et à Kerpissotte.
C'est ça. Donc ça, ça va être le premier jet. Deuxième jet, la Chironnière. Troisième jet, la Tonnelle. L'année dernière, on a passé une convention avec l'établissement public foncier de Vendée pour compte commencer à réaliser un futur lotissement. Alors la mairie a déjà pas mal de terrain dans le secteur, mais c'est derrière la Belle Poule. Alors le préalable, c'est de ramener l'assainissement collectif. Donc ça, c'est en cours. Donc ce qui permet d'anticiper sur les zones prochaines. Puis après, on continue des préemptions à droite, à gauche. On a eu pas mal d'acquisitions de biens 100 mètres. Donc il y a certains qui vont être dévolus à des lotissements, d'autres ce sera des ventes directes. Mais parfois, il faut viabiliser la parcelle, la couper en deux ou céder un bout au voisin, etc. Donc il y a un certain nombre de négociations qui vont avoir lieu. Mais on va pouvoir mettre un certain nombre de biens à disposition de nos jeunes.
Ça fait combien de logements qui vont peut-être voir le jour ?
Entre ceux qu'on vient de mettre en vente, là, la Chironnière et puis la Tonnelle, ce sont déjà une quarantaine de logements, en sachant qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a d'autres mises en vente qui vont s'opérer. Parallèlement, on a aussi repris un lotissement par un lotisseur privé. C'était beaucoup de jeunes îlets qui étaient pressentis pour acquérir ces parcelles. Le lotisseur privé a acheté l'éponge. Donc nous, on a repris le dossier, bon, c'était pas simple parce qu'il a fallu transférer les études, etc. On a modifié certaines choses pour ramener un peu les coûts et modifier un peu le découpage. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça aussi, ça va être mis en vente après l'été. Alors, avec tout le monde l'entendra, un droit de priorité sur ceux qui étaient déjà dessus, quoi. Nous, on fait ça pour dépanner les jeunes qui se retrouvent pas dans la mouise parce qu'un lotisseur privé fait défaut, quoi. Donc,
Emmanuel Maire.
Ils avaient déjà engagé des frais, tous.
Oui, c'est ça, ouais. Donc, ouais. C'est important de suppléer au défaut du lotisseur privé et permettre que ces jeunes puissent avoir leur terrain et puissent construire.
Par exemple, pour les terrains en vente actuellement au Landy-Volant, à la Corderie, est-ce qu'il y a des règles bien définies? C'est primo-accédant, par exemple?
Oui, c'est primo-accédant. Alors, il y a un certain nombre de règles qui sont peu ou prou les mêmes qu'on avait édictées lors des précédents lotissements. Donc, de ne pas avoir en jouissance de patrimoine bâti sur l'île, parce que parfois on peut être copropriétaire, c'est d'avoir un contrat de travail sur l'île ou équivalent. Hein, globalement.
Emmanuel Maillard, deuxième adjoint délégué à la vie économique à la mairie de l'Île-Dieu. Est-ce que vous avez demande de personnes qui travaillent actuellement sur l'Île-Dieu pour avoir un logement?
On a des entreprises qui ont du personnel qui est pris à l'année, qui ont besoin de logement. Donc certains sont plus ou moins logés par les entreprises, repartent le week-end, ne peuvent pas s'installer avec leur famille sur l'Île-Dieu. Donc on a, et puis après on a pour les entreprises toute la demande de logements saisonniers. Bon là, il y en a beaucoup aussi, parce qu'on a, comme on a
des
aussi...
Des entreprises, il est-ce qu'ils demandent des logements pour leurs saisonniers?
Oui,
ce que vous nous dites,
c'est, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, comme on a aussi peu de main-d'œuvre, ou toute la main-d'œuvre qui est disponible sur l'Île-Dieu finalement est au travail, donc on va dire qu'il n'y a pas de chômage quasiment, et donc les entreprises qui ont besoin de saisonniers ont besoin à un moment donné de logements. Donc ça, c'est une autre part de ce qu'on est en train de faire, qui est plus le développement de logements saisonniers. Donc ça, c'est aussi un des sujets de travail d'ELSA, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi sur le fait de trouver du logement saisonnier. Alors on avait déjà commencé l'année dernière avec les logements qu'on avait mis à dispo à Saint-Sauveur et qui vont être reconduits. Et il faut qu'on travaille aussi à des process, à des mises en place de logements, par exemple, chez l'habitant ou de chambres chez l'habitant, etc. Donc, avec des aides de l'État ou des aides de la mairie, sûrement des contrats tripartites entre le saisonnier, l'entreprise et le propriétaire. Bah, tout ça, on est en train de travailler dessus. Donc, on ne peut pas encore annoncer un vrai dispositif. Parce qu'il n'est pas, fini, il n'est pas abouti, mais ça, c'est aussi un des axes sur lesquels on est en train de travailler. Ouais.
Elsa Marché est chargée de mission. Ces logements saisonniers seront en place quand? Alors, cette politique?
Là, on est en train de faire des recherches de ce qui a été mis en place sur d'autres territoires, des retours d'expérience. Donc, on a contacté quelques collectivités pour savoir comment elles avaient fait pour mettre en place.
Des zones côtières, non?
De zones côtières, oui, principalement. Comment elles ont fait pour mettre en place ce logement des saisonniers chez l'habitant?
Alors, comment ils ont fait?
Alors, c'est principalement la collectivité qui a mis ça en place, notamment avec l'Office du tourisme, et qui se sont positionnés en intermédiaire entre des propriétaires privés et des saisonniers qui cherchent un logement. Et ils se sont, ils étaient là pour accompagner sur la rédaction du bail, pour se faire rencontrer les propriétaires et les locataires. Donc voilà, là, on n'en est qu'à la phase de réflexion, de recherche d'informations pour voir si ça peut être mis en place. C'est qu'une réflexion à l'heure actuelle.
Réflexion, mise en place, vous n'avez pas de date pour la saison prochaine ou pas? Ou vous savez pas?
Non, ce n'est pas encore. Peut-être que là, il va y avoir à Saint-Sauveur les 14 logements qui vont être mis là en ce moment en place. Après, est-ce qu'il y aura pour cette année un premier dispositif? C'est possible, mais on n'est pas sûr encore. Parce que, alors, c'est pas le tout de dire, tiens, on va faire un contrat entre l'entreprise, le saisonnier, le propriétaire, voire avec la mairie. Parce que, comme tout actuellement, quand vous avez un logement, c'est que celui qui le loue, s'il le loue à la semaine, il gagne plus que s'il le loue avec un saisonnier. Donc à un moment donné, c'est pas le tout de faire un contrat, c'est de définir comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un à accepter de prendre un saisonnier pendant 6 mois, 8 mois, alors qu'il va, que s'il fait son calcul, sa simulation au départ, il risque de perdre un tiers de ses revenus. Donc, est-ce qu'on a des aides de l'État? Est-ce que l'entrepreneur serait prêt à payer un peu plus cher? Est-ce que c'est tout ça qui, c'est pas juste trouver un contrat, en fait, hein. C'est le fait qu'à un moment donné, sur le même logement, il y a une personne en face qui se dit que ses revenus sont plus forts en faisant de la location touristique, quoi. C'est de la même manière que pour le logement à l'année, le logement locatif. En 20 ans, du fait de la montée du logement touristique, on a quand même perdu quasiment un tiers, je crois, du logement locatif à l'année. C'est pour ça qu'il faut. C'est là aussi où il faut refaire du logement locatif à l'année. Il faut qu'on trouve, faut qu'on amène à ce que les gens qui ont un logement, ils trouvent leur compte à louer à l'année. Donc c'est là, ça demande.
Vous pensez y arriver ou pas ?
Eh oui.
En tout cas,
on va pas lâcher le morceau.
Viens dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, on va chercher tous les outils, tous les dispositifs existants et essayer de les mobiliser. Il y a des choses qui existent et qui peuvent être mises en place.
Un plan de lutte contre les logements vacants est en place au niveau national. Est-ce que ce plan fait partie de la stratégie insulaire, Elsa ?
Alors, c'est un plan qui a été mis en place par le gouvernement et qui vise à remettre sur le marché des logements vacants avec des démarches incitatives. Du coup, ça consiste notamment à fournir aux collectivités toute l'information sur les logements vacants. Ce qu'on n'a pas forcément en tant que collectivité, savoir quels logements sont vacants, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident déjà.
Ce que vous nous dites,
avoir.
C'est que vous ne le savez pas actuellement sur les lieux.
Bah, c'est compliqué de savoir quel logement est vacant, depuis quand, pourquoi. Un des objectifs de ce plan, c'est notamment de fournir des informations, des données plus fiables aux collectivités et de communiquer sur tous les dispositifs qui sont existants pour rénover ces logements, avoir des aides financières pour ensuite les remettre en location, avoir des avantages fiscaux sur la remise sur les revenus locatifs. Donc il existe un certain nombre de dispositifs. Ce plan, il s'adresse quand même prioritairement plutôt aux communes qui ont un gros problème de logements vacants, ce qui est quand même peu le cas de l'Île-Dieu. On visualise des volets fermés, mais ce n'est pas forcément des logements vacants sur l'île. Et le taux de logements vacants sur l'île est quand même très très faible à côté du taux.
Vous le connaissez,
hein,
ce taux de vacances ?
De 2, je crois.
2, peut-être même.
Ouais, 2%.
Il y a différentes sources.
Ça, bon, j'ai envie de dire, c'est le problème. Enfin, le problème, c'est ce qu'on constate dans les secteurs tendus. Plus le secteur est tendu, moins il y a de logements vacants. Et logements vacants, ça peut être... une personne qui est en EHPAD, donc son logement est provisoirement vacant, c'est plutôt de ce niveau-là. Donc, ce qu'il y aura vraiment... Enfin, on ne changera pas face du monde avec les logements vacants. Ceci dit, dans les dispositifs, il y a aussi un dispositif communal où on aide à la remise en location à l'année, mais qui ne s'adresse pas qu'aux logements vacants, mais aussi aux meublés de tourisme qui peuvent revenir à l'année. On offre une aide financière pour ce faire.
Elsa Marché, chargée de mission Habitat, la rénovation des habitats de Ilez, est-ce un axe de votre travail ?
Oui, ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Sur l'île, on a un guichet unique de la rénovation de l'habitat qui est en place avec des prestataires, donc deux associations, Élise et Solia, qui viennent tous les mois pour conseiller et accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation. Donc tout ménage qui a un projet... peut venir se renseigner, on les conseille d'aller se renseigner auprès de ces prestataires. Et nous, la mairie, on fait un suivi de ces prestataires et puis on abonde les aides financières de l'État sur certains projets. Donc il y a une aide minimum de 250 € et puis elle est plus importante selon la qualité énergétique du logement.
D'ailleurs, il y a aussi un plan pour ces logements si les gens veulent rénover leur logement pour les louer.
Dans les aides, il y a des aides pour la rénovation énergétique, il y a des aides pour l'adaptation des logements aussi, ça c'est important, mais aussi des aides pour la remise sur le marché de locatif à l'année.
Et il y a une aide de la mairie là-dessus.
Oui, une aide de la mairie de...
C'est une aide de 5 000 € qui est lissée sur 3 ans. L'idée, ouais. C'est que les personnes remettent leurs biens en location en prouvant par un bail sur 3 ans, et l'aide est versée sur cette période de 3 ans pour s'assurer qu'il est bien remis en location à l'année sur la longue
durée. Ce que vous nous dites, Elsa, pour avoir ces 5 000 €, il faut louer son logement pendant 3 ans ?
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Obligatoirement ?
Obligatoirement. Et sur un contrat.
Voire plus.
Voilà, c'est le minimum.
C'est minimum 3 ans.
C'est ouais. Le minimum.
Bah, y a une aide financière de la collectivité. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on ait une exigence et que ce soit au moins mis en location pour 3 ans. Quoi.
Bruno Nourry, maire de Lille, un dernier mot avant de se dire au revoir.
Bah, de rappeler, en fait, que notre action sur le logement, c'est une action prioritaire de la commune. Je reviens sur cette majoration de taxes sur les résidences secondaires. Encore une fois, c'est pas pour opposer des populations, mais c'est pour faire participer tout le monde à la production de logements à l'année. Sinon, on va avoir une déstructuration de la société ilaise. Je crois que chacun pourra le comprendre. Ça va permettre aussi, dans les centres-bourgs, que ce soit de l'arrière-port ou parfois les appartements, qui étaient un appartement à l'année, finit par être acheté, c'est du Airbnb. Je suis un peu caricatural, mais là, nous, on pourra aller l'acheter, le remettre en location à l'année, ou dans le centre-bourg de Saint-Sauveur, ou dans les villages, on va pouvoir aller acheter aussi des maisons toutes faites pour loger des gens à l'année, ce qui participe aussi à la lutte contre l'artificialisation des sols et à la remise de la vie dans les villages. Et je pense que chacun peut le comprendre, au-delà de la polémique. Je sais bien que ça ne fait jamais plaisir de payer un petit peu plus, mais...
Un petit peu plus, passer de 25 à 60, c'est une belle marche tout de même.
Non, ce n'est pas de 25 à 60, c'est de 60% sur le 25. Ce n'est pas tout à fait pareil. 60% d'une moyenne de 900 €, ça fait 500 € en moyenne par résidence secondaire. En moyenne, les très belles maisons vont payer plus cher, les bicoques vont payer beaucoup moins cher. Mais c'est la condition sine qua non pour qu'on ait les moyens de maintenir notre population à l'année. Et je crois que ça, faut vraiment que chacun le comprenne. C'est pas d'opposer les populations, c'est de mettre à contribution tous ceux qui ont du patrimoine dévolu à autre chose que de l'habitat principal, de mettre à contribution pour qu'on maintienne justement cet habitat principal, quoi. C'est notre unique motivation.
Emmanuel Maillard, deuxième adjoint délégué à la vie économique à la mairie de Lille-Dieu, un dernier mot avant de se revoir.
Oui, c'était juste pour un peu rappeler donc, le travail d'Elsa, pourquoi on a créé ce poste et on a besoin d'elle. C'est-à-dire que pendant des années, la mairie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait de l'accession à la propriété avec du lotissement, de la préemption. Donc ça, c'est on va dire le métier de toutes les communes sur ces dernières décennies, sauf qu'on arrive au bout du bout un petit peu parce que le coût des terres augmente, le coût de la viabilisation augmente, le coût de tout augmente.
Donc, le coût de la construction aussi pour le propriétaire.
Et donc après, même nous, quand on veut commercialiser une parcelle, elle devient de plus en plus chère. Donc à un moment donné, ça va bloquer, quoi. Le coût derrière, soit de l'achat d'une maison pour les gens, soit de la construction, devient de plus en plus cher. Donc on a besoin aussi, on va continuer à faire de l'accession. Ça, il n'y a pas de souci, on l'a parlé avec les lotissements, etc. Mais il faut aussi qu'on réinvente ou qu'on invente de nouvelles formes de logement pour qu'on puisse garder du logement à l'année. Donc c'est pour ça qu'avec Elsa, on est à travailler sur, par exemple, sur les coopératives d'habitants qui commencent à se développer, qui permettent à des gens d'avoir à moindre coût un habitat partagé. Donc ça va pas devenir le modèle de Lille-Dieu, mais ça peut être un des moyens d'avoir du logement à l'année. Grâce au budget qu'on va faire, comme l'a dit Bruno, on va pouvoir investir sur du locatif, donc on va recréer du locatif. À la base, on n'est pas là, nous, pour devenir des propriétaires et faire du locatif, sauf qu'en fait, on est en défaut par rapport à ça. Donc ça va nous permettre de redonner de la vie, comme l'a dit, dans les villages, etc. Il faut qu'on travaille sur du foncier. Il faut qu'on ait aussi... on est aussi en train de travailler sur l'avenir en se disant, tiens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu du BRS, le bail réel solidaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir peut-être que les gens puissent habiter sur l'île-Dieu, il faudra peut-être que la collectivité reste propriétaire du terrain et que les gens puissent construire dessus. Donc, on économiserait le prix du terrain grâce à un tout petit loyer, celui qui s'étalerait sur des décennies et des décennies, et les gens, ça leur permettrait d'avoir un logement à l'année. Et grâce à ça, on est aussi en train de travailler sur le fait qu'à chaque fois, parce que le problème aussi de notre logement à l'année, c'est qu'à chaque fois qu'une maison se met en vente, soit parce qu'il y a un décès, soit parce que les gens quittent l'île-Dieu, soit parce qu'il y a un accident de la vie, enfin tout ce qu'on veut, en gros, cette maison, on la perd pour le logement à l'année quasiment, puisque le prix est devenu trop cher. Donc, soit c'est de l'investissement pour faire du locatif touristique, soit c'est une résidence secondaire, et donc c'est une maison de moins pour du logement à l'année. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de travailler, d'essayer de trouver des solutions. Donc, en plus des lotissements dont on fait la publicité actuelle, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc là, il faut aller dessus actuellement. Mais voilà, Elsa, elle est là aussi pour nous aider à faire mouliner tout ça, à ce qu'on réfléchisse pour trouver les nouvelles formes de logement, pour qu'on garde du logement à l'Île-Dieu.
Elsa Marché, chargée de mission Habitat à l'Île-Dieu, merci beaucoup.
Merci.
Bruno Nourry, maire de l'Île-Dieu, merci beaucoup.
Merci.
Emmanuel Maillard, deuxième adjoint délégué à la vie économique, merci beaucoup.
Merci.